Super. Je vous regarde parce que il y a évidemment des absents aujourd'hui, mais vous êtes là. Alors je me dis, c'est à vous que cette prédication s'adresse. Alors je vous regarde. Je vais vous confesser un péché. Et ce n'est pas une blague, c'est un vrai péché. Ce péché, le voici, je suis un insatisfait chronique. La plupart du temps, dans mon quotidien, les choses ne me semblent pas à la hauteur de ce qu'elles devraient être. Alors, je sais, ce n'est pas forcément à ce genre de choses qu'on pense quand on pense au péché, mais c'est un péché quand même. Quand il s'agit de situations, de circonstances autour de moi, ça n'engage pas grand-chose, c'est vrai, si ce n'est ma frustration, bien que même comme ça, ma famille peut en faire les frais. Mais quand il s'agit de mes proches, justement, de ceux que j'aime, quand, par mes paroles ou par mes attitudes, je leur laisse entendre que eux ne sont pas à la hauteur de mes espérances, évidemment, ça peut faire du dégât. Ça peut faire du dégât quant à l'estime de soi, ça peut faire du dégât parce que là où Dieu prononce sur eux des paroles de bénédiction, je viens, moi, avec des paroles et des attitudes de malédiction. Alors évidemment, je ne dis pas aux gens autour de moi qui sont nuls ou que voilà, je ne les insulte pas, parce que je sais me tenir, mais j'ai parfois fait ressentir tout le poids de ma frustration et de ma déception, ce qui au final vient à dire exactement la même chose. Et puis il y a pire, parce que quand vous grattez le problème et que vous le regardez en face, ben, il faut se rendre à l'évidence, en toile de fond, il y a une plainte vis-à-vis de Dieu lui-même. Il y a une authentique rébellion. Alors là aussi, je ne l'exprime jamais comme ça, bien sûr, je sais là aussi me tenir, je sais comment on fait quand on est chrétien, bien éduqué, tout ça. Mais quand même, c'est de ça qu'il s'agit. Ce que ma frustration trahit, c'est que la vie que le Seigneur m'a donnée n'est pas à la hauteur de mes espérances. Et je suis donc comme le peuple de Dieu dans le désert, qui se plaint de la manne, qui tombe pourtant chaque jour, parce que bon, quand même, la nourriture est un peu fade. Et ce faisant, j'entretiens ma frustration. Et puisque je suis frustré, je finis par être en colère. Et puisque je suis frustré 30 fois par jour, je suis donc en colère 30 fois par jour. Et tous ceux qui m'entourent en font les frais. Alors cette semaine, le Seigneur a mis le doigt sur ce point précis de ma vie. Je m'en suis repenti, évidemment, mais pour être tout à fait honnête, je dois aussi vous dire que ce n'est pas la première fois que je me repens de ce péché. C'est une bataille de longue haleine, parce que l'ennemi connaît ma faiblesse, il l'exploite, et aussi parce que j'ai souvent baissé les bras. À plusieurs reprises, j'ai cessé d'espérer en Dieu. Je me suis avoué vaincu. Mais le Seigneur est bon, il est fidèle, lui. Et cette semaine, il a été très précis quant à ce qu'il me demandait à ce sujet. Ça s'est passé mercredi dernier, et ce qu'il m'a demandé trouve un écho dans le texte que je vous propose de lire ensemble ce matin. Et si je me permets de vous en parler, c'est parce que je sais que la colère, c'est une difficulté pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Et peut-être en particulier pour les hommes. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que j'observe. Alors, il y a peut-être là un chemin de liberté qui s'ouvre devant nos pas. On va aller lire le texte, mais comme à mon habitude, je vais prier. Ce texte se trouve dans le livre des psaumes, c'est le psaume 103. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole encore ce matin. Pour cette parole qui est lumière et vie, pour cette parole qui nous exhorte, qui nous reprend, qui nous encourage, pour cette parole qui vient nous chercher dans ce que nous sommes, de beau et de bon, et aussi dans ce que nous sommes de plus obscur, parce que toi, Seigneur, tu n'as de cesse de vouloir nous faire passer des ténèbres à ton admirable lumière. Seigneur, voilà, dans nos vies, il y a des lieux ténébreux. Seigneur, nous ne voulons pas qu'il en soit ainsi, Et je te prie, Seigneur, pour que ceux qui, dans l'aspect qu'on va aborder aujourd'hui, vivent encore dans ces ténèbres, eh bien, puissent aujourd'hui voir la lumière et que tu puisses vraiment faire ton œuvre dans nos vies à chacun. Amen. Psaume 103. De David. Bénis l'Éternel, mon âme. On l'a entendu ce matin. Bénis l'Éternel, mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère, il est riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Bénis l'Éternel, mon âme. Parfois, lorsque nous lisons les psaumes, nous passons outre, nous sautons les petits mots introductifs comme s'ils n'avaient pas d'importance. Et ces petits mots introductifs, aussi petits soient-ils, sont paroles de Dieu, eux aussi. Et ici, Dieu a estimé important de nous faire savoir que ce psaume, il est de David. Quand on pense à David, on pense à ce jeune homme, au comportement exemplaire vis-à-vis de Saül qu'il persécutait. Il a eu plusieurs fois l'occasion de le tuer, mais il ne l'a pas fait parce qu'il a voulu respecter loin de l'Éternel. On pense à ce grand roi d'Israël qui préfigure rien de moins que le Messie qui devait venir. On pense à cet homme que la Bible nous présente comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. On pense moins, c'est vrai, au sale type qui n'a pas hésité une seconde à s'approprier la femme d'un autre, à la mettre dans son lit sans lui demander son avis, au lâche qui n'a pas assumé la grossesse qui en a découlé, qui a essayé de faire croire que l'enfant n'était pas le sien, et finalement à l'assassin, qui a envoyé volontairement le mari de cette femme au front afin qu'il meure au combat. David, un homme selon le cœur de Dieu. Si David vivait aujourd'hui, il prendrait 25 ans de prison et il ne les aurait pas volés. Alors évidemment, ce n'est pas ça qui lui a valu d'être appelé un homme selon le cœur de Dieu. Il faut chercher ailleurs, et notamment, je crois qu'on peut chercher dans notre psaume 103. Parce que s'il y a bien une qualité qu'on peut trouver à David, c'est celle-ci, David n'est pas oublieux. Et notamment, il n'oublie pas la bonté de Dieu. C'est lui, dit-il en parlant de Dieu, qui pardonne toutes les fautes. Verset 3. Et vous avez bien entendu, toutes les fautes. Alors on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. On parle là des fautes d'un violeur et d'un assassin. En 2 Samuel 12, Dieu envoie le prophète Nathan auprès de David et Nathan va dire ceci à David. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. C'est moi qui t'ai conféré l'onction pour que tu sois roi sur Israël. C'est moi qui t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai donné la maison de ton Seigneur, j'ai placé sur ton sein les femmes de ton Seigneur, je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si ça ne suffisait pas, j'y ajouterai encore. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole du Seigneur en faisant ce qui lui déplaisait? Tu as abattu par l'épée Uri le Hittite. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme et lui tu l'as tué par l'épée des Ammonites. Maintenant l'épée ne s'écartera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé, parce que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour en faire ta femme. Ainsi parle le Seigneur, je suscite un malheur contre toi du sein de ta maison. Je prendrai tes propres femmes sous tes yeux pour les donner à l'un de tes proches, et il couchera avec tes femmes sous les yeux de ce soleil. Toi, tu as agi en secret, moi, je ferai ça à la face de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre le Seigneur. Nathan répondit à David, le Seigneur laisse passer ton péché, tu ne mourras pas. Mais parce que tu as bafoué le Seigneur en cette affaire, le fils qui t'est né mourra. Puis Nathan s'en alla chez lui. Le Seigneur frappa l'enfant que la femme d'Uri avait donné à David. Il tomba malade. Ce texte est scandaleux, franchement. D'abord, le pardon de Dieu est scandaleux. Le Seigneur laisse passer ton péché, tu ne mourras pas. Comment ça, le Seigneur laisse passer ton péché? Le type abuse une femme, il tue un homme, et le prophète n'a rien de mieux à dire que « le Seigneur laisse passer ton péché ». Nathan n'est pas le premier prophète que Dieu envoie vers un roi d'Israël pour lui mettre le nez dans son péché. À plusieurs reprises, on voit dans la Bible des prophètes faire la même chose avec d'autres rois, et en général, leur carrière de prophète tourne court. Mais il nous faut reconnaître ceci, quand Nathan vient voir David, David se repent. David ne nie pas sa faute. David la reconnaît. J'ai péché contre Dieu. Et c'est parce qu'il reconnaît sa faute que Dieu la lui pardonne. Et ça nous scandalise à vue humaine. Mais il y a plus scandaleux encore ici. David ne meurt pas, ok, très bien. Mais son fils, celui qui est né de son péché, lui, va mourir. C'est lui qui va payer les pots cassés. Et franchement, on n'a pas trop envie de lire ça. Qu'est-ce que ce petit bonhomme a à voir avec la faute de son père? C'est dur, je trouve, comme parole. C'est même injuste. Mais les amis, la vie menée sous la domination du péché est une vie dure et injuste. Quand un père boit dès 8 heures du matin et qu'en rentrant le soir, il cogne femme et enfant, qui est coupable? Le père. Qui est victime? Le père, mais pas seulement. Ses proches aussi sont victimes. La Bible, elle ne vient pas nous raconter des histoires doucereuses, elle nous raconte la vie telle qu'elle est. Et dans la vie telle qu'elle est, notre péché vient éclabousser nos proches. Ça fait du dégât. David ne fait pas exception. Il sait très bien qu'il est la cause de tout ce désastre. Et quand vous êtes dans pareille situation, en fait, vous avez trois options devant vous. La première, c'est de nier, de minimiser, de vous trouver des circonstances atténuantes, de vous justifier, dire que ce n'était pas vraiment de votre faute ou que vous n'aviez pas vraiment le choix, que ce sont les circonstances qui vous ont amené à ça. Et c'est très tentant de se défendre comme ça, d'abord parce qu'il y a une part de vrai là-dedans, mais attention, parce que si vous faites ça, votre faute reste sur vos épaules. Vous aurez à en rendre compte au jour du jugement. La deuxième option, c'est d'admettre pleinement sa faute et s'effondrer. S'effondrer parce que le poids de la culpabilité est trop lourd, parce que vous ne pouvez pas réparer ce qui a été brisé, parce que vous savez que vous êtes coupable et que vous méritez la condamnation de Dieu et des hommes. Et en vrai, j'en ai connu des pelletées des personnes comme ça, et la plupart d'entre elles ne sont plus là pour en parler, et celles qui sont encore là pataugent dans une vie misérable. La troisième option, qui a ma préférence, c'est d'admettre pleinement sa faute, mais au lieu de s'effondrer, se tourner pleinement vers Dieu, qui nous sauve par grâce, qui nous pardonne l'impardonnable, qui nous fait entrer dans une vie de reconnaissance et d'adoration envers ce Dieu qui nous relève du puissant fond dans lequel nous avions sombré. C'est tout le sens de la mort de Jésus à la croix. Jésus a pris sur lui notre condamnation. Il est mort, lui l'innocent, pour que nous, les coupables, nous puissions vivre, pour que nous puissions aller de l'avant. Alors, quand on est du côté des coupables, évidemment, c'est une super nouvelle. C'est une merveilleuse nouvelle. Mais quand on est du côté des victimes, vous sentez ? On peut sentir poindre un sentiment d'injustice. Certains le disent, pardon, mais c'est trop facile. C'est trop facile, le méchant ne peut pas s'en tirer à si bon compte. Mais les amis, la repentance n'a rien de facile. D'abord parce qu'une repentance authentique t'oblige. Elle t'oblige vis-à-vis de celui qui a payé pour toi. Le salut, s'il est gratuit pour nous, il n'est pas gratuit pour tout le monde, il a coûté le prix de la vie du Fils de Dieu. On ne peut pas prendre le salut à la légère. Une repentance authentique implique non seulement une vraie contrition, mais aussi un vrai changement d'attitude. Elle implique de se mettre à la suite du Christ dans le sens de la vie. Et ça, ça n'a rien de facile parce que le péché se présente à nous comme une véritable addiction et il va falloir le traiter comme tel. Ensuite, la repentance n'est pas facile parce que si elle est libératrice, dans un premier temps, elle nous met plus bactère. Elle nous amène à ce qu'on déteste le plus au monde, l'humilité. L'humilité, au sens fort du terme. Humilité, ça vient de humus, c'est la terre. Se repentir, c'est, j'ai presque envie de dire littéralement, manger la poussière. C'est reconnaître que Dieu ne nous doit rien, si ce n'est une sévère condamnation. Et c'est le reconnaître publiquement parce que ce péché, il faut le faire passer de l'obscurité à la lumière. Et ça, c'est très humiliant. C'est exactement l'inverse de ce que nous souhaitons du haut de notre cœur orgueilleux. Nous voulons être des self-made men, non ? Ou women, peu importe. On veut ne jamais avoir à reconnaître nos torts. On veut ne pas avoir à reconnaître notre besoin d'un plus grand que nous. On veut pouvoir s'en tirer sans avoir besoin du pardon de qui que ce soit parce qu'on a horreur d'être pris en défaut. Et tant qu'on ne lâche pas cette prétention-là, eh bien, on passe notre temps à se justifier. Et tant qu'on se justifie soi-même, eh bien, on ne peut pas être justifié par Dieu et nous restons sous sa condamnation. David a abandonné cette prétention. Il est ce roi qui a compris qu'il ne doit son salut qu'à Dieu seul. Avec ce qu'il a fait, avec tout le sang de roi guerrier qu'il a sur les mains, il sait mieux que quiconque que si son salut dépend de ses œuvres, il est foutu. Et en même temps, il accueille ce pardon. C'est lui, dit-il, qui pardonne toutes les fautes. Il accueille ce pardon pour ce qu'il est, une grâce, un cadeau qu'il ne mérite pas. Et puis il ajoute au verset 3, c'est lui qui guérit toutes les maladies. Eh bien, va dire ça à ton fils, David. Vous voyez la difficulté, là ? Comment est-ce qu'on peut comprendre cette affirmation ? David n'est pas idiot. Précisément, il est bien placé pour savoir qu'il y a des maladies qui mènent à la mort. Il sait aussi que tous les croyants ne sont pas délivrés de la tombe. D'ailleurs, lui-même a fini dans la tombe. Alors, de quoi est-ce qu'il parle ? Eh bien, il parle, je crois, de ce petit schéma que je vous ai déjà présenté. Il parle du fait que le péché affecte tout notre être, corps, âme, esprit. Quand nous comprenons et que nous acceptons que notre salut vient de Dieu seul, la première chose qui se passe, c'est que nous venons à naître spirituellement. Le problème du péché qui nous séparait de Dieu est réglé et on peut à nouveau entrer en relation avec Dieu. Nous sommes spirituellement vivants. Mais notre rédemption, c'est-à-dire notre rachat par le Christ, ne concerne pas seulement notre esprit. L'espérance messianique, elle va bien au-delà de ça. Le prophète Ézéchiel aura même cette vision saisissante en Ézéchiel 37 d'une vallée d'os desséchée auquel Dieu va redonner vie, pas seulement en esprit, mais bien en chair et en os. Dans le Nouveau Testament, Paul, en Romains 8, 23, dit que nous attendons la rédemption de notre corps, c'est-à-dire de tout ce que nous sommes. Et c'est dans cette espérance-là, dans cette glorieuse anticipation-là, que David dit « C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe. » Et puis il ajoute au verset 4, « C'est lui qui te couronne de bonté et de compassion. » Et oui, il en sait quelque chose, David. Lui qui n'était qu'un berger, le dernier et le plus chétif de sa fratrie, il a effectivement fini couronné, roi d'Israël. Et il en est de même pour chacun d'entre nous. D'esclaves du péché, nous finissons couronnés. Nous sommes fils et filles du roi des rois. Nous sommes cohéritiers du royaume de Dieu. Parce qu'on est fort ? Non, bien sûr. Par grâce. Et finalement, David nous dit aussi que Dieu est celui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alors, vous avez des commentateurs qui signalent que l'aigle voit son plumage renouvelé chaque année. Alors, je trouve ça mignon, mais pour être franc, ça ne correspond pas trop à ce que je vois de mon propre plumage les années passant. Et en plus, chez l'aigle, ça n'est vrai, comme chez nous, finalement, que jusqu'à l'âge adulte. Ensuite, l'aigle fait comme tout le monde, il vieillit et il meurt. Par contre, le prophète Ésaïe nous donne, lui, une piste intéressante sur ce que peut vouloir dire David, puisqu'il reprend cette même thématique et il reprend également la même image de l'aigle en Ésaïe 40, 29 à 31, qui nous dit ceci, « L'Éternel donne de la force à celui qui est épuisé et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents s'épuisent, ils se fatiguent, les jeunes gens finissent par trébucher, mais ceux qui espèrent le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent leur essor comme les aigles, ils courent et ne se fatiguent pas, ils marchent et ne s'épuisent pas. » Alors, il paraît que les aigles peuvent voler sur des kilomètres sans un seul battement d'aile parce qu'ils se laissent porter par les courants d'air chaud. Alors, j'ai appris ça il y a relativement peu de temps et ceux parmi vous qui font du parapente pourront peut-être le confirmer, mais je crois qu'il n'est pas... Si, il y a des gens qui font du parapente ici, non ? Il est où ? Si, il y en a un. Voilà, il se cache là-bas. Enfin, il ne se cache pas, mais je ne le voyais pas. Alors, tu me diras si c'est juste ou si ce n'est pas juste. Il paraît que les champs cultivés produisent de l'air chaud. Tu sais ça ou pas ? Ah oui ? Les arbres et autres. D'accord. Bon, j'avais appris les champs cultivés. Apparemment, c'est les arbres. OK. Et les champs aussi, sans doute. Bon, ils produisent de l'air chaud, donc... Et ce faisant, il crée une bulle d'air ascendant, parce que l'air chaud est plus léger que l'air froid, que les oiseaux et les parapentistes donc cherchent pour pouvoir se laisser porter et voler sans effort. Donc, si vous voyez un oiseau qui est là, lui, il cherche une bulle d'air. Si vous voyez un oiseau qui est là, lui, il a trouvé la bulle d'air. Rajeunir comme l'aigle, en fait, consiste à ne pas compter sur ses propres forces, mais à compter sur le Seigneur, sur son souffle de vie qui nous porte. Ce que David nous dit ici, c'est que le chrétien qui cherche à avancer par ses propres forces s'épuise, mais celui qui se laisse porter par le souffle de l'Esprit-Saint voit ses forces renouvelées. Il court et ne se fatigue pas, nous dit David, il marche et ne s'épuise pas. Et donc, David est reconnaissant pour tout ce que je viens de dire, et c'est déjà beaucoup de sujets de reconnaissance, et je crois que pour tous ces sujets, nous les partageons avec David. Nous avons les mêmes. David n'oublie pas la bonté du Seigneur à son égard, et il n'oublie pas non plus la justice de Dieu. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés, il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. Et là encore, je ne sais pas vous, mais moi je me dis, sérieux ? Vraiment, l'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés ? T'as bien regardé les infos, David ? T'as allumé ta télé dernièrement ? Ou comment ça se passe ? Et oui, Dieu fait justice et fait droit à tous les opprimés. Et où est-ce qu'on le voit ? Eh bien, David nous le dit, on le voit dans les voies qu'il a fait connaître à Moïse. Alors, on n'a évidemment pas le temps de les passer en revue, mais beaucoup de lois dans la Torah sont des lois de justice sociale, des lois pour protéger l'étranger, pour protéger la veuve, l'orphelin, des lois pour remettre les dettes aux pauvres et pour les libérer et pour libérer les esclaves. Et comme pour joindre le geste à la parole, Dieu a effectivement délivré son peuple du joug de l'esclavage en Égypte. C'est même ce qui constitue l'acte fondateur du peuple d'Israël. Mais après, il y a ce que les hommes font de ces lois. Parce que, encore une fois, on ne vit pas dans le jardin d'Éden ici. La Bible nous présente un tableau réaliste du monde dans lequel nous vivons, et ce monde, c'est un monde déchu, où le péché fait des ravages. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous appelle à la conversion. Il nous appelle à revenir de nos mauvaises voies et à nous attacher à ses commandements, des commandements de vie, des commandements de justice. Et vous allez voir maintenant à quel point on est loin du compte. L'Éternel fait grâce, dit David au verset 8, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. En vrai, notre Dieu est tellement lent à la colère que c'est un objet de moquerie autour de nous. Les gens nous disent « Mais tout ça, c'est des croyances anciennes, pré-scientifiques, sont des fables de l'Antiquité, il faut être complètement neuneux pour croire encore à des idioties pareilles au XXIe siècle. » Et je trouve très étonnant, en vrai, l'aplomb avec lequel les gens peuvent dire ça, comme si l'être humain du troisième millénaire avait une quelconque supériorité intellectuelle sur le quidam de l'Antiquité. La démocratie a été inventée dans l'Antiquité. Aristote, Socrate, Platon, Saint-Augustin et toute proportion gardée, Jésus-Christ lui-même sont des personnages de l'Antiquité. J'aimerais savoir combien de moqueurs d'aujourd'hui traverseront les siècles comme l'ont fait ces personnages qui ont façonné le monde dans lequel nous vivons maintenant. Cette réflexion mise à part, et l'homme étant ce qu'il est, les moqueries étaient prévisibles. L'apôtre Pierre, au chapitre 3 de sa deuxième épître, nous prévient « Vous savez, avant tout, que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de moqueries qui iront au gré de leurs propres désirs et diront « Elle est où, la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères se sont endormis dans la mort, tout demeure comme depuis le commencement de la création. » Autrement dit, il est où, votre Jésus ? Elle est où, sa justice ? Ça fait 2000 ans qu'on l'attend, elle est où ? Et Pierre poursuit en disant, en effet, ils oublient volontairement, pense Pierre, peut-être moins volontairement aujourd'hui parce que la culture biblique s'est bien perdue, ils oublient qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui surgit de l'eau et se tint au milieu de l'eau par la parole de Dieu et que par cela même le monde d'alors disparut, submergé par l'eau. Là, Pierre fait référence au déluge, c'est-à-dire à un moment de l'histoire où Dieu a exercé son jugement sur le monde. Et il ajoute « Or, c'est par la même parole que les cieux et la terre de maintenant sont gardés en réserve pour le feu en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Il est cependant un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. » Jésus est venu il y a 2 jours. C'est moins long d'un coup. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le pensent. Il est patient envers vous. Il ne souhaite pas que quelqu'un se perde, mais que tous accèdent à un changement radical. D'autres traductions, à mon avis meilleures, disent « tous accèdent à la repentance ». Combien de personnes nous disent « si Dieu était juste », il ne laisserait pas telle ou telle injustice se commettre, il ne laisserait pas telle ou telle horreur arriver. Mais on a envie de leur dire, les amis, si Dieu appliquait maintenant sa justice, vous seriez parmi les condamnés. Et ce temps de la justice viendra, c'est bien ce que la Bible annonce, il y aura un jugement, parce qu'effectivement Dieu est juste. Ce temps de la justice de Dieu, de son royaume pleinement établi, il va venir. Mais en attendant, Jésus nous dit qu'il est venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. On est dans le temps de l'opportunité. La seule question à se poser, c'est de savoir si tu seras trouvé parmi ceux qui, comme David, ont compris qu'ils ne peuvent compter que sur la grâce de Dieu pour être justifiés, ou si tu devras te défendre toi-même devant Dieu de l'indéfendable de ta propre vie. Toi, pécheur, devant un Dieu saint, tu ne feras pas le poids. Et il est là l'enjeu. Alors, si tu as la bonne idée de te tourner vers Dieu, tu dois savoir, comme le dit David au verset 9, qu'il ne garde pas éternellement sa colère. Tu dois savoir, comme David le dit au verset 10, qu'il ne te traitera pas conformément à tes péchés, qu'il ne te punira pas comme le mériteraient tes fautes. Pas si tu places ta confiance en celui sur qui la colère est tombée, en celui qui a été traité conformément à tes péchés, en celui qui a été puni comme le méritaient tes fautes. Et celui-là, évidemment, c'est Jésus-Christ qui s'est livré pour toi, par amour, pour que toi tu puisses vivre. Pourquoi ? Parce que, versets 13 et 14, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. Et ça, ce n'est pas une situation qui le satisfait, parce que nous n'avons pas été créés pour la mort, nous avons été créés pour la vie. Et si notre vie ici-bas ne dure qu'un temps, dit le verset 15, le temps d'un souffle, la bonté et la justice de Dieu s'étendent, elles, jusque dans l'éternité, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. Versets 17 et 18. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Je vous ai parlé de mon propre péché en introduction. Je vous ai parlé de cette insatisfaction chronique qui entraîne de la frustration, frustration qui amène à la colère, une colère qui n'est ni saine ni sainte et qui aboutit au péché. Peut-être qu'il est bon alors d'inverser la vapeur. Au lieu de croire que Dieu me doit tout, me rappeler tout au contraire, comme David le fait dans ce psaume, qu'en fait il ne me doit rien. Il me doit absolument rien. Je vis dans un monde déchu, issu du chaos originel, un monde marqué par un péché auquel j'ai largement pris ma part. Tout ce que j'ai, tout ce que je vis de beau et de bon, a commencé par mon propre salut, est pure grâce. Jacques, au premier chapitre de son épître, dit au verset 16, « Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés, tout don excellent, tout présent parfait vient d'en haut. Il descend du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni éclipse. » Et il dit ça après avoir expliqué, je cite, « que chacun est mis à l'épreuve par son propre désir, qui l'attire et le séduit. Puis le désir, lorsqu'il a conçu, met au monde le péché, et le péché, parvenu à son terme, fait naître la mort. » Il y a des désirs qui sont légitimes. Je pense par exemple à ceux qui sont issus de la souffrance. Ces désirs-là trouvent un appui fort chez les prophètes, comme Ésaïe, par exemple, qui annonce un temps où il n'y aura plus ni mal ni dommage sur toute l'étendue de ma montagne sainte, dit le Seigneur. Mais que nos désirs soient légitimes ou qu'ils ne le soient pas, on n'a même pas à s'en soucier, en fait. L'enfant demande tantôt des bonbons, tantôt du pain à ses parents bien-aimés. Et nous, de même, nous pouvons exprimer sans crainte nos désirs au Seigneur. Mais une fois qu'on a fait ça, on doit aussi apprendre à lui faire confiance. Ses désirs, ils sont à lui remettre, et ensuite, nous pouvons être confiants dans le fait que Dieu va s'en charger. Et si je fais ça, si j'arrête de croire que ce que je désire m'est dû, et si j'entre dans la confiance en Dieu, alors je tords le cou de ma frustration, ce qui m'évite de sombrer dans la colère, ce qui m'évite de pécher en pourrissant la vie de mon entourage. Et je ne dis pas que c'est facile, c'est ce que la Bible appelle « crucifier les œuvres de la chair ». Dans ce voyage-là, je dois également rester attentif à l'esprit. Et je parle bien là de la voix de Dieu, celle qui se fait entendre lorsqu'on prend la peine de l'écouter, celle qui nous guide vers la délivrance, une délivrance qui ne prend pas toujours, vous l'aurez compris, le chemin de la satisfaction de nos désirs, mais assez sûrement le chemin de la volonté de Dieu à laquelle nous finissons par adhérer librement si nous marchons par l'Esprit. Parce que la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le révèrent. Et alors, du milieu même de circonstances adverses, je peux dire, comme David, « Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Je vais prier. Seigneur, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance parce que tu es digne de notre adoration, de notre louange. Seigneur, il y a sans doute quelque part en nous, logé au fond de notre cœur, le souvenir lointain du jardin d'Éden. Et quand on compare notre vie à ce qu'elle devrait être, eh bien, nous éprouvons de la frustration souvent, de la colère parfois, et ça nous emmène au péché, parce que tout ça naît de notre propre désir. Seigneur, nous avons péché. Nous sommes pécheurs. Nous ne méritons rien, en vrai. Nous vivons dans un monde déchu. Mais tu fais grâce de tellement de manières, à tellement de moments. Seigneur, ne serait-ce que par le souffle de vie, par le fait d'être encore ici, vivant, le fait encore plus étonnant de pouvoir nous approcher de toi, malgré notre péché, parce que tu as résolu le problème du péché en ton Fils qui est mort pour nous à la croix. Seigneur, tu permets cette relation que nous ne méritons pas, et c'est aussi une grâce. Seigneur, il y a tellement de cadeaux dont nous sommes au bénéfice. Nous sommes souvent comme des enfants gâtés, où on pense que tout nous est dû. En fait, rien ne nous est dû. Seigneur, donne-nous de recevoir notre vie comme ça, non pas pour nous flageller en permanence parce que nous sommes tellement mauvais, il ne s'agit pas de ça, parce que ce n'est pas non plus le regard que tu portes sur nous, mais il s'agit, Seigneur, de pouvoir être pleinement reconnaissant de tout ce qui est bon et de tout ce qui est beau, parce que tout ça vient de toi. Tout ça n'est pas un dû, tout ça est une grâce. Seigneur, la beauté de la création autour de nous, Seigneur, la famille, le fait d'avoir un toit, un lit, d'être au chaud, le fait d'être dans un pays en paix, rien ne nous est dû, et on le voit bien, puisque tout le monde n'a pas ce bénéfice-là. Seigneur, nous voulons vraiment entrer dans cette reconnaissance pour toute chose, pour qui tu es. Nous voulons aussi faire grâce à ceux qui nous entourent. Puisque rien ne nous est dû, Seigneur, nous voulons accueillir les autres tels qu'ils sont, pas tels que nous les souhaitons. Nous voulons être reconnaissant pour tout le beau et le bon que nous pouvons voir en eux, par l'œuvre qui est la tienne dans leur vie. Nous voulons pouvoir exprimer notre reconnaissance aussi vis-à-vis de ceux qui nous entourent, plutôt que notre frustration et notre colère, parce que c'est ta manière d'agir avec nous. Toi, tu nous fais grâce, tu nous fais du bien, même quand nous ne sommes pas méritants. Seigneur, merci parce que cette vie de reconnaissance est une vie qui nous fait du bien aussi. Alors, aide-nous simplement. Aide-nous à prendre conscience de qui nous sommes vraiment devant toi, parce que cette conscience-là nous amène à la louange, à l'adoration. Au nom de Jésus, Amen.